Europe 1.
L'adolescence est une étape charnière de la vie. Pour beaucoup, elle est synonyme de liberté. C'est le temps des premières fois, mais aussi celui des conflits et des questionnements. C'est une période de fragilité où les limites peuvent parfois être franchies de façon extrême, avec le risque de mettre sa vie future en péril. Comment se sont-ils relevés de leur erreur de jeunesse? Et comment leurs choix d'adolescents ont changé à jamais le cours de leur vie? Et quelles sont les conséquences sur leur quotidien et sur leur entourage? Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'histoire de Kamel. Sa vie a basculé le jour où il a pensé trouver dans la drogue une façon d'apaiser son chagrin. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier, alors soyez les bienvenus.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bah, vous pouvez vous asseoir. Alors, ça va? Oui. Donc, moi, je m'appelle Kamel. Déjà, je vais commencer par le début en vous disant que je suis un ancien toxicomane. Vous savez ce que c'est qu'un toxicomane? C'est quoi un toxicomane? Quelqu'un qui prend?
Des drogues dures.
Effectivement, un toxicomane, c'est quelqu'un qui prend des drogues et qui maîtrise plus du tout son usage. C'est-à-dire qui est jusque-là dans le produit, quoi. C'est à la portée de tout le monde de commencer à prendre des drogues. Mais ce qui n'est pas à la portée de tout le monde, c'est d'arrêter quand on en prend, quoi. Quand on commence vraiment à en prendre beaucoup. Ouais, t'as une question?
J'ai commencé la drogue avec...
Moi, j'ai commencé les drogues très très tôt. Voilà, je te dis franchement, moi j'ai commencé les drogues, j'avais 14 ans. Je vais expliquer quelque chose. Vous savez, on vient pas un jour à consommer des drogues comme ça, juste parce qu'on a envie d'en consommer, quoi. Si les drogues accrochent, c'est qu'il y a une raison. Et moi, à 14 ans, il m'est arrivé quelque chose qui a fait que j'ai plus jamais eu la même vie. Et effectivement, je consommais pas pour les mêmes raisons que mes camarades. Moi, j'ai beaucoup de mes camarades qui consommaient pour s'amuser. Moi, je consommais pour oublier. Ce qui n'est pas du tout la même démarche. Et je me suis mis à consommer de plus en plus de drogues. En me disant, demain, ça ira mieux. Demain, ça ira mieux. Et le temps passe et... Et puis pour certaines personnes, effectivement, ça passe. Et puis pour d'autres, ça passe un peu moins. Et moi, je fais partie de celles pour qui c'est passé un petit peu moins. Et je suis resté comme ça, accroché aux drogues pendant de nombreuses années.
Aujourd'hui, Kamel a fait de son erreur de jeunesse le combat de sa vie. À l'âge de ses collégiens, lui-même s'est laissé piéger par les drogues. Pourtant, contrairement à beaucoup d'autres, l'environnement familial dans lequel il a grandi n'est pas en cause. Bien au contraire.
J'avais une vie qui était géniale, quoi. J'étais aimé, j'étais aimant, ça se passait super bien à la maison.
Vous passez plutôt une enfance heureuse.
Ouais, plutôt une enfance heureuse à la campagne avec mes parents et puis mes trois frangines. J'étais le seul garçon, donc j'étais super proche de mon papa. Et puis il m'emmenait tout le temps avec lui au garage. Il m'emmenait un petit peu. Il m'a appris la mécanique. J'étais tout le temps fourré avec mon père, quoi.
Alors à l'âge de 13 ans, vous avez subi un choc avec la mort de votre père. Dans quelles circonstances votre père meurt?
Il s'est tué dans un accident de la route. Ouais. Donc ça a été quelque chose de très très soudain parce que on voit pas les choses arriver, quoi. Moi à 8h mon papa était là, à 8h05 il était plus là, quoi. Donc c'est super soudain, quoi. Voilà, quand on nous a dit qu'il rentrerait plus à la maison, je me suis renfermé sur moi-même, je parlais plus du tout, je communiquais plus, je mangeais plus et il m'a fallu une semaine avant de réaliser.
Lorsque votre papa est parti, vous semblez avoir eu un nouveau rôle dans cette maison.
J'ai pris le rôle qui venait, c'est-à-dire que je me suis retrouvé un peu le responsable de la famille, quoi. J'étais le papa bis, quoi. Voilà, c'est clair. J'avais cette responsabilité-là vis-à-vis de ma maman, vis-à-vis de mes sœurs. Sauf que j'avais 14 ans. Et à 14 ans, c'est pas comme ça que j'aurais dû faire. Mais en même temps, je me rendais compte que certaines choses, si je les gérais pas, elles étaient pas gérées. Voilà, parce que ma mère, elle était très très mal aussi vis-à-vis du décès de mon papa. Elle était très très mal. Elle était tellement triste qu'elle pouvait passer des journées entières dans son lit à pleurer, à plus vouloir bouger, à plus vouloir rien faire. Et du coup, c'est vrai que je me retrouvais à gérer mes petites sœurs, quoi.
C'est à partir de là que il y a une fragilité qui s'installe chez vous.
Franchement, c'est vraiment à partir de là, quoi. À partir de là, moi je voyais ma mère qui prenait des médicaments, je voyais que quand elle prenait ses médicaments, elle était moins triste. Donc moi, du haut de mes 13 ans, je me suis dit, mais si je prends beaucoup de médicaments, je serai peut-être plus jamais triste. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec la pharmacie familiale et à prendre les cachets de ma mère. Et effectivement, pendant que j'étais sous produit, j'étais moins triste. Voilà. Et le souci, c'est que j'ai très vite accroché, quoi.
Et vous preniez quoi ?
Bon, un petit peu ce qu'il y avait, quoi, des anxiolytiques, des produits, voilà. Mm-hmm.
Votre mère se rendait compte de ça, en fait ?
Ah non, pas du tout.
Personne ne se rendait compte ?
Non, pas du tout. Puis dès que je pouvais aller chez ma grand-mère en prendre des cachets, enfin, dès que je pouvais aller quelque part en prendre des cachets, j'en prenais, quoi. Je ne tapais pas que dans ma pharmacie à moi, quoi. Je tapais aussi un petit peu partout, quoi.
D'accord. Ouais.
Ça va très vite. Puis quand j'ai mélangé ça avec de l'alcool, bah, l'effet a été tellement détonnant que là, je me suis dit, voilà, j'ai trouvé ce qu'il me faut, quoi. Avec ça, je vais plus réfléchir. Avec ça, je serai plus triste.
Chacal, allez.
À 14 ans, livré à lui-même, sans aucune prise en charge médicale ni aucun conseil, l'erreur de Kamel a été de croire que les psychotropes pouvaient le guérir de sa tristesse.
C'est bien.
En réalité, il est devenu de plus en plus fragile et dépendant, et la pharmacie familiale ne suffisait plus. Il s'est alors tourné vers d'autres drogues.
La prise des anxiolytiques, de l'alcool, vous mène très vite vers le cannabis.
Ouais, le cannabis, ouais. Ouais,
bon, dans quelles circonstances vous fumez la première fois du cannabis ?
Ouais, je suis avec des copains, quoi. Voilà, justement, à l'école, avec des potes. Mm-hmm. Voilà, entre deux cours. Moi, je fumais pas spécialement beaucoup de joints. Hein. C'est surtout des bangs, quoi. J'avais ma bouteille en plastique et puis, je tirais dessus, quoi.
Ce qui est extrêmement nocif, hein.
Ce qui est extrêmement nocif, parce que ça va au plus profond des bronches, au plus profond des poumons. Mm-hmm. Donc, et en plus, l'effet est éphémère, ce qui fait que ça dure très, très peu de temps. Donc, tu recommences à en prendre très, très vite. Voilà, et ça rend super addict.
À 14 ans, on...
On n'est pas conscient de ça.
Pas du tout.
Non, pas du tout. Mmh. Moi, j'étais dans je gère, j'arrête quand je veux. Mais moi, je maîtrise. Mais moi, j'arrête demain. Ouais. Aujourd'hui. Ah non, demain.
Demain.
Ouais, demain. Mmh. Toujours demain. Mmh.
Une certaine naïveté par rapport au danger de tout ça.
Complètement. Ah, moi, c'était vraiment ça. C'est on ne connaît pas. On ne se rend pas compte des choses, quoi. Mmh. On ne se rend vraiment pas compte, quoi.
Il va y avoir un nouvel épisode marquant dans votre vie, c'est que votre mère va vous mettre à la porte.
Ouais, parce qu'en même temps, je faisais tellement tout et n'importe quoi que tous les trois jours, j'avais la police qui venait à la maison, me ramenait à la maison. Puis bon, il y a eu un jour, elle a eu ras-le-bol de me voir arriver avec la police. C'est vrai que moi, j'étais plein de critiques par rapport à ça. Mais c'est vrai que je me disais, mais comment est-ce qu'on peut balancer un gamin dans la rue, quoi? Mmh. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que c'est facile de juger. Mais quand tu rentres un petit peu dans le détail des choses, tu te rends compte que certains parents, ils ont même pas le choix. C'est-à-dire qu'effectivement, ils vivent des choses tellement, tellement dures que c'est vraiment sauver le reste de la famille, quoi. Mmh. Voilà.
Donc, à 14 ans, votre mère vous met à la porte.
Ouais.
Dans la rue, comment ça se passe? Vous prenez vos marques vite?
Ouais, très rapidement. Et puis très vite, j'ai trouvé ça facile aussi de me retrouver dans la rue, sans contrainte, sans avec ton sac à dos, ton chien, à aller de squat en squat. Moi, c'était une vie qui quelque part me convenait, parce que j'avais aussi trouvé un groupe de copains, une certaine solidarité.
Une nouvelle famille?
Une nouvelle famille, ouais. Une nouvelle famille, ouais.
Mais cette nouvelle famille et la vie dans les squats entraînent encore un peu plus Kamel dans ses addictions. À 17 ans, accro au cannabis et à la cocaïne, il franchit un pas de plus qui va lui coûter très cher. Il découvre l'héroïne.
Je prenais pas mal du speed ou de la cocaïne, donc des produits qui te speed, quoi. Et du coup, à la descente, des fois, c'était un peu compliqué, quoi. Et il y a un gars qui un jour venait me voir en me disant, écoute, Kamel, il me dit, tu veux, moi, j'ai pris la même chose que toi, je vais bien ce matin, quoi. Je dis, mais attends, mais tu t'es fait comment? Mais il me dit, moi, je prends un peu de marron, quoi. Je dis, mais de la marron, ok, mais c'est quoi? Il me dit, écoute, je vais te faire goûter ça, tu verras, quoi. Et à partir du moment que t'as mis le nez dedans, c'est cuit, quoi. Moi, j'ai pris ça, en fait, pour que la descente, ça se passe mieux avec la coke, en fait. Mmh. Pour se passer mieux, ça se passait mieux. J'étais rangé dans un coin, en train de comater. Ça se passait mieux. Mmh. Mmh.
En prenant de l'héroïne, la première fois, vous vous dites, tout de suite, j'ai accroché. Pourquoi vous avez accroché?
Parce que c'est un produit que je connaissais pas. Et la première fois que j'en ai pris, comme j'étais déjà quelqu'un qui était assez excessif, c'est-à-dire qu'en général, je prenais pas un petit peu de produit, je prenais tout de suite le truc, et j'en ai pris beaucoup dès la première prise. Ce qui fait que moi, j'ai accroché, mais dès la première prise, j'ai dû prendre 2 grammes en 2 jours. Mais en 2 jours, j'étais dedans. Mm-hmm. En 2 jours, j'étais dedans.
C'est un produit qui peut accrocher en 2 jours.
Ah ouais, tu dépends ce que tu fais avec, mais ça peut aller très, 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 très vite. Très, 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 très vite.
Comment cette consommation, elle a été croissante au fil du temps qui passait?
Plus tu vas mal, plus tu consommes, plus tu consommes, plus tu vas mal. Et puis, c'est le cercle vicieux, en fait. Et puis très vite, après, voilà, tu veux plus réfléchir. Et voilà, moi, c'était ça, l'héroïne, je voulais plus réfléchir. Dès le matin, je me réveillais, bam, bam, quand j'avais dormi 3 heures, c'était déjà bien. Dès que je me réveillais, c'était mon shoot d'héroïne, quoi. Et je pouvais même pas faire autrement, je pouvais même pas me lever sans avoir pris de l'héroïne, quoi. C'était même pas la peine, j'avais mal partout, j'étais cassé de partout. Voilà, quoi. Et dès que je prenais le produit, c'était le tour de magie, quoi. C'est hop.
Comment est-ce que vous gagnez de l'argent à ce moment-là pour vous payer votre héroïne?
Moi, j'ai vraiment fait un petit peu de tout. Je faisais beaucoup la manche. Moi, 2 heures, j'avais l'argent pour ma cam. J'avais l'argent pour ma cam. C'est clair. Quand ça n'avait pas marché, quand j'avais pas eu assez d'argent la journée pour la. Voilà, j'allais visiter une ou deux maisons, quoi.
Mon cambriolage, ça veut dire qu'on peut tomber sur tout?
De tout. Moi, je tombais sur des briquets en or, des montres en or, enfin voilà, des bijoux. Ça pouvait être des bouteilles de vin. Le but, c'était de me faire du liquide, en fait. C'était le moteur, de façon, pour avoir de l'argent, c'était les drogues. Notre moteur, c'était ça. C'était avoir de l'argent pour acheter des produits, quoi.
Vous m'avez parlé aussi à un moment de prostitution.
Ouais, voilà. Moi, je mettais pas le mot prostitution, quoi. Voilà, je m'en allais dormir avec quelqu'un, tu te réveillais avec un billet de banque sur le bord de la table de nuit, puis je trouvais ça facile. Je trouvais ça un petit peu facile.
Comment ça se passait, tout ça?
Moi, j'allais où il y avait du fric aussi. Donc, c'est-à-dire que j'allais à Belle-Île, enfin, à Quiberon surtout, je faisais des sorties de casino. Puis, je repérais un peu les gens, quoi. Puis, j'étais un petit gigolo, quoi. Donc, ouais, je pouvais me retrouver avec une petite nana, enfin, une petite mamie de 70 ans, qui m'emmenait chez elle, à bord du champagne.
D'accord. Voilà. Et ça, vous le viviez comment?
Je le vivais que dès que ça montait à la tête, je prenais plus de drogue. Puis, comme ça, j'y pensais pas.
Ouais, c'est ça, ouais.
Voilà, quoi.
Entraîné dans cette spirale, Kamel finit par se faire arrêter pour vol et recel à l'âge de 18 ans. Après une année en prison, il renoue avec la rue. Son errance va durer 10 ans, 10 ans pendant lesquels Kamel partage sa vie entre les squats et une vie de famille en pointillé. À cette époque, il rencontre une femme avec laquelle il a une petite fille. C'est cette même petite fille qui sera plus tard à l'origine d'un déclic pour Kamel, quand elle lui fait comprendre un beau jour qu'elle s'inquiète pour lui.
Elle m'a posé la question, papa, est-ce que tu te drogues? Je lui ai répondu que oui, quoi. De toute façon, si j'avais répondu non, elle n'aurait même pas compris, quoi. Dans l'état où j'étais à l'époque, elle n'aurait même pas compris.
En parlant à votre fille, et en ayant dans la bouche vous-même ces mots, oui, c'est vrai, je me défonce, je me drogue.
Et c'est de m'entendre le dire, en fait. C'est de m'entendre le dire. Ouais. Parce que souvent, c'est tout ça, quand tu te drogues, tu te caches. C'est-à-dire que tu es constamment dans le mensonge. Sauf qu'il y a un moment où tes mensonges ne tiennent plus la route. Et moi, il y a bien longtemps que mes mensonges ne tiennent plus la route, en fait. Et du coup, j'ai pris conscience que s'il y avait un virage que je prenais pas, j'allais droit dans le mur. Et ça, j'étais conscient de ça. J'ai souffert de la perte d'un papa. J'en ai vraiment souffert.
Ouais.
Et je me suis dit, j'ai pas le droit de faire ça pour mes enfants, en fait. J'ai pas le droit. C'est juste ça, j'ai pas le droit.
Au bout d'un moment, vous arrêtez complètement?
Complètement.
Tout?
Mais tout. Et un matin, tu vois, c'est tout bête, je suis parti à l'île, il y a une île pas très loin d'ici qui s'appelle l'île de Molène. Et je me suis retrouvé comme ça sur un bateau avec un petit pêcheur, un petit papy. Et je lui dis, je peux venir avec vous? Il me dit, mais je vous connais pas. Je dis, mais non, je vais venir avec. Il me dit, vous allez où? Je dis, il me dit, je vais ramasser mes casiers. Je viens avec vous ramasser les casiers. Je dis, je bouge pas, je le mets sous le bateau dans un coin. Il me fait, bon, allez, il me dit non. Puis après, je m'en vais, puis il me dit, bon, en même temps, t'as raison. Pourquoi je te parle comme ça? Allez, vas-y, viens. Et je me retrouve à monter dans le bateau. Et là, on avance, et je me retrouve à 7h du matin. La mer était étale. Il n'y avait pas une vague. Et là, je vois le soleil se lever sur la mer. Et je vois ce petit papy à côté de moi qui avait quoi, 70 ans, qui t'a ramassé ses casiers. Et je me suis juste dit à ce moment-là, eh ben, en fait, c'est ça la vie, en fait. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est juste génial. Sauf que toi, avec tout ce que t'as mis par-dessus, tout ça, tu le voyais plus, quoi. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que la vie, en fait, elle était ce qu'on voulait en faire, en fait. Elle était ce qu'on voulait en faire. Même pour un ancien toxico.
Je comprends que vous ayez la pêche aujourd'hui. Vous soyez tout le temps en train de vous marrer.
Ouais, c'est important.
Parce que finalement, aujourd'hui, la vie...
Elle est belle.
Elle est belle aujourd'hui. Ouais. Hein.
Toxicomane depuis l'adolescence, Kamel a eu besoin de soutien pour parvenir à décrocher. Ce soutien, il l'a trouvé au sein de l'association AIDS, où il est rapidement devenu lui-même bénévole. C'est là qu'il a fait la rencontre de Fabienne, psychologue.
La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, c'est qui cet oiseau-là? Et je n'ai pas entendu le son de sa voix, de tout le module, mais il avait une présence... qui, je sais pas, je dirais pas intimidé, mais il y avait un certain charisme. Mmh.
Alors, vous êtes intervenus tous les deux. Kamel dit que ça lui faisait du bien d'intervenir à côté de vous. Est-ce que vous sentiez ça? Est-ce que
oui.
Vous...
Ouais. Oui, parce que moi, je ne lui ai jamais rien demandé. Je lui ai simplement dit, bah, si tu as besoin de parler, je suis là. Mmh. Et Kamel était prêt à ce moment-là. Et il a osé parler de bah, affronter ses démons, affronter ses souffrances, affronter ses douleurs. Et moi, j'écoutais.
Alors, vous veniez de Marmottan.
Oui, j'ai travaillé avec beaucoup d'adolescents qui étaient, bah, pour beaucoup d'entre eux, addicts au cannabis, mm-hmm. mais très fortement addicts. Et si effectivement, je n'ai jamais entendu, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que mes parents réagissent? Si je ne l'ai pas entendu 100 fois, je ne l'ai jamais entendu. Donc effectivement, on sent qu'à un moment, beaucoup de gens ont pu me dire « mais on n'a pas trouvé un adulte qui soit suffisamment compréhensif pour comprendre un peu les souffrances qu'on avait. »
Donc vous connaissiez déjà toutes les fragilités qui peuvent entourer les destins de toutes ces femmes, tous ces hommes qui finissent par se droguer ou en tout cas être dans une addiction à l'alcool, aux drogues.
Moi, je pense qu'on ne devient pas toxicomane par hasard. On ne devient pas toxicomane parce qu'on veut se suicider. On devient toxicomane parce qu'on espère une vie meilleure. Enfin, c'est ma façon de penser les choses. Et avec Kamel, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu essayes de fuir? Qu'est-ce que tu essayes de cacher avec ces produits-là? Et c'est là qu'il a osé me parler de son père et de toute cette souffrance qu'il avait en lui.
Vous avez eu peur pour lui, une fois, je suppose?
Oui, oui. Il y a eu une rechute l'année de ses 29 ans, et j'en étais pas étonnée, parce que son papa est mort à 29 ans. Donc moi, je savais, en tant que psychologue, que cette année-là, c'était
ça
une année
fragile.
Charrière. Voilà, c'était une année charrière, et ça a pas loupé. Il a rechuté, je m'en suis aperçue très rapidement, et là, je lui ai dit, ben, tu as deux possibilités. Ou tu reprends ton combat avec la substitution et tu te sors de ça et je serai à tes côtés, je t'épaulerai toujours. Ou tu t'enfonces et tu continues, mais ne me demande pas de regarder ça parce que je ne pourrai pas. Mmh. Et il a choisi la première solution.
Votre relation, elle a évolué à tous les deux.
Oui.
Et finalement, vous êtes tombés un peu amoureux. Hein.
Oui.
C'est une histoire d'amour qui est arrivée comme ça, que vous n'aviez pas vu arriver l'un et l'autre.
Non, on ne l'a pas vu arriver.
On l'a pas vu arriver.
Non, c'est clair.
Je pense qu'on a eu toujours... on s'aime très, très fort. Mais je pense qu'on ne pouvait pas vivre à deux. Je pense que sa femme, maintenant, c'est celle qu'il lui fallait. Mon mari, maintenant, c'est celui qu'il me fallait. Mm-hmm. Mais cet amour, c'est amoureux, est devenu une amitié indestructible. Mm-hmm. C'est-à-dire que l'un, on sera toujours là, l'un pour l'autre.
Quel regard vous portez sur lui aujourd'hui, sur son, voilà, sur ce qu'il est devenu, sur.
Je suis moi en admiration et je suis très fière du combat qu'il a mené parce que c'était pas évident. Enfin, je sais pas si j'ai le droit de dire que je suis fière parce que c'est son combat et c'est sa vie. Mais comme il dit très souvent, si je me lève le matin en sachant que j'ai aidé quelqu'un à ne pas plonger ou à pouvoir se sortir, ben j'ai fait quelque chose de bien.
Le visage de Kamel est déjà connu dans nombre de collèges et de lycées, puisqu'en 2011, c'est lui qui a accompagné l'animateur Jean-Luc Delarue dans son tour de France de prévention contre les drogues. Désormais à la tête de sa propre association, Kamel continue de parcourir les routes de France avec la mission qu'il s'est fixée, éviter aux adolescents de faire les mêmes erreurs que lui.
Bah en tout cas, voilà, prenez soin de vous, parce que voilà, je me répète un petit peu, mais franchement, prenez soin de vous, quoi. C'est super important. Voilà, de faire attention aux autres et de faire attention à soi, c'est super important. Voilà. Parce que ceux qui l'oublient le payent très cher, quoi. Franchement, le payent très cher. Et moi, j'ai oublié de m'occuper de moi. Donc, je l'ai payé très cher. En tout cas, je vous remercie de votre attention, puisque vous avez été super attentifs.
Au revoir.
Est-ce que vous avez eu, vous, dans votre jeunesse, droit à ce que vous offrez à ces enfants aujourd'hui?
Bah non, effectivement. Donc c'est vrai que moi, l'information, à l'époque, il y en avait déjà quasiment pas. Et puis le peu d'informations qu'il y avait, c'était des diaporamas avec des cerveaux et des synapses. Donc c'est bien beau de savoir comment ça fonctionne, mais ce qui est important de savoir, c'est peut-être aussi comment on peut éviter d'y rentrer. Et je pense que ça, c'est des sujets qui n'étaient pas spécialement abordés. Et Voilà, donc je trouve que ça apportait cette expertise-là, de par mon vécu assez jeune, je trouve ça super important.
Quand on parle d'erreur de jeunesse, alors, et l'engrenage dans lequel ça vous a fait tomber, en fait, cette erreur de jeunesse, vous la regardez... Est-ce que justement, vous l'analysez comme une erreur de jeunesse, finalement ?
Bah, ça a été... Voilà, j'arrive pas à le dire, le mot erreur, quoi. Voilà, je pense que j'ai pas pris la bonne trajectoire.
La bonne direction,
voilà.
Ouais.
Et je pense qu'il y a toujours moyen... Il y a toujours moyen de rebondir, quoi. Voilà, quoi. C'est tellement facile de se laisser aller. Se battre, c'est autre chose. Mais ça vaut tellement le coup. Et aujourd'hui, ben voilà, j'ai appris à vivre avec mon passé et puis je vais de l'avant, quoi. Mais c'est vrai qu'on est ce qu'on veut être. Voilà, on est ce qu'on veut être. Et je vais aussi donner cet espoir-là à tous ces gens qui se retrouvent comme moi. J'ai pu me retrouver il y a quelques années dans la rue avec mon chien à faire la manche, à me retrouver à shooter de l'héroïne tous les jours et de me dire que combien de fois je me suis dit, mais je m'en sortirai jamais, quoi. Et d'aujourd'hui, de pouvoir donner l'espoir à des gens, de dire, voilà, moi, j'ai été tout au fond, et pour autant, bah voilà, j'ai rebondi, et aujourd'hui, je me drogue plus, quoi. Et je prends plus d'héros, et je suis fier de le dire, quoi. Et ça, je trouve que donner l'espoir aux gens, c'est super important. Mm-hmm.
C'est quoi votre futur, alors bon, vous allez continuer à avaler les kilomètres avec votre moto, aller aux quatre coins de la France porter ce message, on peut parler de message. Hein.
Ouais, on peut parler de message, ouais. Mm-hmm. Complètement. Ouais. Mm-hmm.
Vous allez continuer ça?
Ouais, je vais continuer. Ouais. C'est ce que j'ai toujours dit, moi, tant qu'il me restera 7 souffles ou ça d'air dans les poumons, bah, je dépasserai aller voir les jeunes, parce que bah, je trouve ça important, quoi. Ouais, je trouve ça important. Je dis pas que si j'avais été informé, je me serais pas drogué, je dis pas ça. Je dis juste que si j'avais été informé, j'aurais l'opportunité d'avoir un choix. Et moi, ce choix-là, je l'ai jamais eu. Et je vais le donner aux autres. Voilà.
Très bien. Félicitations, et puis voilà, bravo. Merci, hein, pour ce message. C'est toujours bon de voir, de rencontrer des gens comme vous et de partager du temps avec autant d'humilité, de bonté. Donc portez-vous bien, hein.
Merci.
Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une création Europe 1 Studio. Production, Lisa Soster. Réalisation, Christophe Daviau. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez cliquer pour vous abonner et être averti dès qu'il y a un nouvel épisode. C'est gratuit. Alors je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très très bientôt.